Les parts actualités.
Bonjour, ici Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Les titres de vos parts actualités du jour. Un nouveau site créé pour évaluer les résidences pour aînés. Une nouvelle école pour les élèves déficients intellectuels de la CSDM. Un octogénaire qui prend part à un voyage humanitaire. Et pour une 36e année consécutive, l'Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais, l'APICO, a dévoilé ses 1200 boules décoratives fabriquées par une cinquantaine d'artisans membres ayant une déficience intellectuelle. Également à l'ordre du jour, les Canadiens continuent de se prononcer au sujet d'un Canada accessible et en Ukraine, difficile accès aux prothèses pour les blessés de guerre. Également aujourd'hui, deux entrevues. D'abord avec le directeur général de Roulibus à Victoriaville, André Baudry, mais aussi avec Jacinthe Langlade, agente de développement à la Fondation des aveugles du Québec. Alors après les écoles, les hôtels et les restaurants, les résidences pour aînés seront maintenant évaluées grâce à un site internet, un papier qui nous vient de la presse canadienne intitulé « Évaluation de résidences pour aînés ». Le site web offre à la population la possibilité de décrire et de coter les résidences privées pour personnes âgées. L'initiative vise à permettre aux aînés et à leurs proches d'en connaître plus sur les services et les soins dont ils bénéficieront, dépendant de l'endroit où ils auront choisi de vivre. Cinq caractéristiques principales du bien-être des aînés ont été sélectionnées à des fins d'évaluation: la propreté des lieux communs, la gentillesse et l'efficacité du personnel, la qualité des repas, la qualité des soins offerts et le coût. Les visiteurs du site n'auront qu'à cliquer sur l'onglet « Recherche », ce qui donnera accès à une carte interactive. Les gens peuvent eux-mêmes partager leur opinion sur les résidences. Une nouvelle école pour les élèves déficients intellectuels de la CSDM. C'est comme si le Père Noël était passé pour les 200 élèves de l'école Irène Lucier, leurs parents, et pour le personnel aussi, qui se battent depuis 5 ans pour défendre ce projet d'école répondant aux besoins des enfants handicapés. C'est un texte de Anne-Louise Despatie. Le vieux bâtiment, situé à l'intersection du boulevard Pie-Neuf et de la rue Hochelaga, est un labyrinthe pour ces jeunes de 12 à 21 ans, atteints de déficience intellectuelle moyenne à grave, mais aussi de troubles du spectre de l'autisme, de surdité ou de problèmes de motricité. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a fait l'annonce d'un investissement de près de 35 millions de dollars provenant du plan québécois des infrastructures 2016-2026 en vue de construire une nouvelle école. Le bâtiment de 4 étages abritera 37 classes spécialisées, un gymnase et une cafétéria. Des salles de retrait sont aussi prévues pour permettre à ces jeunes de quitter leur classe pour retrouver leur calme lorsque survient une crise. Très émue, la présidente de la commission scolaire de Montréal, Catherine Harel-Bourdon, a parlé du travail colossal qu'effectue le personnel dans une école vétuste et des annexes qui ne répondent plus aux besoins des élèves. Le ministre Proulx avait visité l'école au printemps dernier et avait promis de faire son possible. La nouvelle école Irénée Lucier pourra recevoir jusqu'à 250 élèves provenant de partout à Montréal. Après beaucoup de représentations, 5 ans de bataille, on a trouvé un ministre qui est sensible à notre cause, sensible aux jeunes et aussi à la réussite scolaire de ces jeunes-là, se réjouit Mme Aguillard, qui est aussi la présidente du conseil d'établissement de l'école. Mais il faudra encore de la patience. La nouvelle école ne sera prête qu'en 2021 sur le terrain adjacent à l'école Eulalie du Rocher dans Hochelaga-Maisonneuve. J'ai le sentiment que Victoriaville est une ville où l'on fait beaucoup pour les personnes handicapées. La conscience est là et les problèmes y sont aussi, mais on trouve toujours des solutions. Et je pense que le service dont on va parler aujourd'hui est vraiment unique à Victoriaville. Il s'agit de Roulibus et j'ai son directeur général, M. André Baudry, en ligne. Bonjour, M. Baudry.
Oui, bonjour, madame.
Alors, effectivement, hein, Roulibus, c'est vraiment spécifique à Victoriaville, hein. Il n'y a que là que ça existe.
pas vraiment. Roulibus dans le nom, oui, mais au niveau du transport adapté, il y a quand même 92 organisations à travers le Québec.
Bon, alors regardez, je retire ce que j'ai dit, mais je ne retire pas ce que j'ai dit sur Victoriaville.
Non, pas du tout.
Je sais que Victo a, entre autres, reçu un prix à part entière il y a quelque temps, justement, pour le fait qu'on travaille beaucoup en faveur de cette fameuse accessibilité universelle. Alors, Roulibus, M. Baudry, parlez-nous-en.
Bien, Roulibus, c'est le transport adapté, donc il est exclusif aux personnes ayant des limitations à la mobilité.
Oui, c'est-à-dire les personnes âgées aussi?
Oui.
D'accord.
En autant qu'ils ont des limites au niveau de la mobilité, ce qu'on appelle le déplacement.
Bien sûr.
Alors, en soi, nous, on couvre un territoire de 1910 km²,
oui,
qui est le territoire de la MRC. On a 18 municipalités qui utilisent les services de transport de Roulibus pour une population d'à peu près 68 000 qui est couverte.
OK.
On fait autour de 45 000 transports par année.
Oh là, oui.
Uniquement en adapté. Alors, et la ville est très, bien sûr, c'est la ville de Victoriaville qui est la ville mandataire au nom de des municipalités participantes.
Mm-hmm.
Et la ville a une préoccupation très nette par rapport aux personnes ayant des limitations là, en lien avec l'accessibilité universelle.
Bien sûr, bien sûr.
Comme vous l'aviez mentionné tantôt.
Mais alors, quand vous dites, parce que j'aimerais me faire une petite carte un petit peu dans ma tête, quand on parle de la MRC Victoriaville, c'est quand même assez énorme. Vous me dites 19 000 km².
1900,
mais quand même. Mais ça représente donc, vous allez jusqu'où à peu près?
Connaissez-vous la MRC d'Arthabasca?
Oui, un petit
peu. Parce qu'on va jusqu'à Saint-Martyr-Canadien, qui est à peu près une heure de route du centre de Victo.
D'accord.
On descend en direction de Drummond jusqu'à Sainte-Clotilde-Horton.
Oui. Ah, ben dites donc, c'était un Sainte-Clotilde que je ne connaissais pas, celui-là.
Ah,
c'est parce que...
il est situé entre Victoriaville et Drummondville.
D'accord.
Et... ensuite, du côté de la 20, on va jusqu'à Saint-Louis-de-Blanford.
Oui, d'accord.
Et du côté Québec, direction Est, là, on va jusqu'à la limite de Victo et Princeville.
D'accord. Bon.
Et ensuite, Roulibus, c'est un organisme sans but lucratif. Et ça, c'est important de le mentionner. Donc, ce qu'on appelle un OBNL, avec un conseil d'administration.
D'accord.
Et notre particularité, c'est qu'on travaille en régie. Ça veut dire qu'on gère nos véhicules. Alors, Roulibus travaille avec 5 autobus et non pas des minibus.
Mm-hmm.
Et depuis juillet dernier, on gère aussi 2 taxis adaptés.
Ah, OK.
Alors, pour compléter notre offre de service.
Bon. Et là, en ce moment, bon, vous avez reçu un montant de la ville pour 2017. Est-ce que c'est un montant qui vous satisfait, Monsieur Baudry?
Oui, dans le sens que c'est pas seulement la ville de Victo, là, toutes les municipalités participantes au transport adapté contribuent financièrement. Et la très grande majorité ont accepté une majoration de leur contribution pour 2017 par rapport à 2016.
D'accord.
Qui est de l'ordre de 2%.
Bon.
Et ça nous permet de compenser la non-indexation des subventions du ministère des Transports.
Ah oui.
Okay. Parce que le ministère des Transports contribue au transport adapté à travers le Québec. Là.
Mais
depuis plusieurs années, les argents disponibles sont gelés ou fixes.
Tiens donc, que vous me surprenez. Alors vous aussi, vous y goûtez, hein, M. Baudry.
On y goûte malheureusement parce que les coûts de système, on les assume.
Bon, alors cela veut dire que cela explique vraiment le fait qu'il va y avoir une hausse des tarifs, mais très légère, mais quand même de ces transports adaptés pour 2017.
Oui, puis il y a des hausses aussi pour les utilisateurs-utilisatrices.
On parle de quelle hausse, monsieur?
C'est 25 sous du passage, donc nos tarifs passent de 3,25 à 3,50 ce qui n'est pas beaucoup en soi si on le prend en brut, là, mais
pour les
gens, ça commence à avoir un impact, étant donné que plusieurs de nos membres utilisateurs sont des gens à faible revenu.
Mais oui, c'est sûr.
Alors, chaque fois qu'on augmente de 25 sous, il faut le calculer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une augmentation aux 2 ans. du tarif des passages.
Bon, oui. Est-ce que vous avez beaucoup de plaintes, vous, chez vous, avec Roulibus, ou c'est un service fiable? De toute façon, c'est ce que vous allez me dire.
Ah, ben,
vous
c'est avez... sûr qu'il est fiable.
Non, mais
vous savez... on n'est pas à l'abri de faire des erreurs, bien
non,
sûr.
Non, non, non.
Alors, mais globalement, en lien avec le 45 000 transports qu'on fait, le nombre de plaintes est très faible.
Oui, on s'est informé, puis effectivement, c'est vraiment dérisoire, quoi.
Oui, oui, oui. Puis généralement, c'est beaucoup en lien avec des possibles retards.
Oui.
Des fois, c'est parce que la route est trop longue.
Oui.
On appelle ça, nous, faire la rondelée, là.
Oui, bien
alors,
sûr.
Alors, on travaille fort de façon à ce que les gens ne
bien
passent
sûr.
Pas plus que trois quarts d'heure à peu près dans l'autobus, là.
Bon.
Avant d'arriver à domicile. Mais c'est plus dans cet esprit-là qu'on a la majorité des plaintes. Mais comme je vous dis, le nombre de plaintes est très, très faible, au point que je le règle au fur et à mesure.
Ah oui, en effet. Bon, mais ben, écoutez, ben, bravo, Monsieur Baudry. Je suis très contente parce que quand j'aurai à parler maintenant de Roulibus, eh bien, j'aurai au moins une très belle voix dans la tête et je saurai un peu plus de quoi il s'agit.
Ah, ben ça va faire grandement plaisir. Et si jamais vous avez le goût de nous parler encore, vous vous gênez pas pour des précisions.
Ça va nous faire plaisir, Monsieur Baudry. Passez une très belle fin de journée.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Bye-bye.
Tiens, voulez-vous une belle histoire? En voilà une. Un octogénaire qui a pris part à un voyage humanitaire. Jean-Paul Roy a toujours voulu vivre l'aventure avec un grand A. Et pour différentes raisons, le résident du petit domicile de Charny a longtemps mis ce rêve en veilleuse jusqu'à ce qu'il décide enfin de se lancer dans un voyage humanitaire au Sénégal. C'était cet automne, à l'âge de, tenez-vous bien, 86 ans. Dans le journal de Lévis, c'est Marie-Anne Bergeron-Courteau qui nous raconte cette aventure. Malgré son âge avancé, le Lévisien n'a pas l'habitude de rester sagement assis dans sa chaise berçante. Il est très actif, tellement actif qu'il a approché un organisme qui s'appelle Oser Voyager, qui développe deux créneaux distincts, soit les voyages personnalisés pour les personnes ayant des restrictions diverses, comme une mobilité réduite, et les missions humanitaires. Parce que cet homme-là, il a toujours eu cette idée-là dans la tête. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à la journaliste. Il faudrait que je réalise ce rêve-là avant de mourir. Eh bien, il l'a fait. Alors, grand-papa JP, comme l'appellent ses enfants et petits-enfants, est parvenu à convaincre la fondatrice de l'intégrer dans le groupe qui partait seulement deux semaines plus tard pour le Sénégal. Il est parti avec son sac à dos, un voyage concept où rien n'est prévu à l'avance. Pas de transport à l'arrivée, pas d'hôtel prévu. Eh bien, il l'a fait, ce voyage, et on voit d'ailleurs une photo magnifique où il est entouré d'enfants, des enfants à qui on remet des crayons, des vêtements, des brosses à dents et des barres tendres notamment. C'est l'objectif de cet organisme-là. Alors, bravo à cet homme, Jean-Paul Roy, qui a pu remettre lui aussi, en dehors des câlins et des baisers, plein d'objets divers à ses enfants rencontrés au Sénégal. Très rapidement, pour une 36e année, l'Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais, l'APICO, a dévoilé ses 1200 boules décoratives qui sont fabriquées par une cinquantaine d'artisans membres ayant une déficience intellectuelle. Du 29 au 23 décembre, du 29 novembre, pardon, au 23 décembre, les Gatinois peuvent se procurer une boule de Noël au coût de $5 dans les bureaux de l'APICO ou via leur site web. Il faut rappeler que l'APICO est un organisme à but non lucratif qui offre des services aux personnes présentant une déficience intellectuelle et à leurs familles, afin de favoriser leur intégration sociale, communautaire et professionnelle. Et en ce moment, l'organisme compte 650 membres. Elle est agente de développement à la Fondation des aveugles du Québec, hein, qu'on appelle le plus volontiers la FAQ, j'imagine. Bonjour, Madame Jacinthe Langlade.
Bonjour.
Ravie de vous parler. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous parliez des activités dont on fait la promotion en ce moment à la Fondation des aveugles.
Oui, nous, chaque année, nous offrons des activités pour les personnes ayant une déficience visuelle, âgées de 6 à 25 ans.
D'accord.
Présentement, nous sommes en période d'inscription pour les activités d'hiver. Donc, à chaque semaine, nous avons des activités de ski Et aussi, à peu près aux 2 semaines, nous avons des activités récréatives.
D'accord. Le ski, j'imagine que ça se passe toujours avec un guide?
Oui.
C'est ça. Donc, ils sont toujours associés avec une personne voyante, hein, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Effectivement.
OK. Alors, ben, allez-y, je vous laisse parler de toutes ces belles activités-là.
Pour l'activité de récréative, nous varions de chaque année du traditionnel, mettons, vers la fin de l'hiver, cabane à sucre.
Oui.
Aussi, on va faire de la pêche sur glace, des glissades sur tube.
Immondieux.
Selon les suggestions que j'ai, j'arrange le calendrier.
Je les trouve courageux parce que même moi, avec mes yeux, je ne fais pas ça. Madame Langlade, est-ce qu'il y a d'autres services que vous offrez en dehors de ces sorties-là au sein de la fac?
Oui, nous avons le service d'habitation.
Okay.
À notre actif, présentement, on offre 76 logements adaptés à des personnes handicapées visuelles. Adapté, c'est par rapport à la luminosité surtout.
OK.
Oui, il y a les rampes d'accès, mais nous, ça va être plus basé sur les contrastes de lumière afin qu'ils puissent mieux s'orienter dans leur logement.
Je comprends.
Puis aussi, on a aussi le côté sensibilisation pour le bien-être de nos yeux.
Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là comme campagne de sensibilisation?
La sensibilisation, c'est surtout sur les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
C'est de mettre de l'information concernant les yeux, l'handicap visuel, de bien prendre soin de nous.
Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comme tout ça.
Exactement.
Par exemple, est-ce qu'il y a aussi, parce que je lisais assez récemment à cette émission-là, un sujet d'actualité qui m'avait bouleversé pas mal, d'un monsieur, je ne sais plus où, en France, je pense, qui, à cause d'un verre de contact mal nettoyé, avait subi une opération. En fait, il a perdu un œil. Est-ce que c'est le genre de choses dont vous pouvez parler et faire un... Hein, c'est ça? Là?
Oui, les articles comme ça, oui, généralement, on les aime pour justement sensibiliser les gens à prendre
soin de leurs yeux.
Soin.
D'accord.
Puis aussi, ça peut être avec les lumières, les verres fumés.
Oui, OK.
Quel verre fumé choisir? Est-ce que ça vaut la peine vraiment d'investir ou non? On peut aller de ce sens-là aussi.
Ah, c'est très intéressant. Bon, quels sont les dossiers chauds à suivre en ce moment dans l'actualité, Madame Langlade?
Pour l'instant, on a un nouvel édifice qui va sûrement se faire construire au printemps.
Oui.
Qui va accueillir encore 12 logements.
Mm-hmm. À Montréal ou en région?
À Montréal.
À Montréal même,
OK.
On est
toujours dans les régions de Montréal.
D'accord.
Puis aussi, là, présentement, on travaille sur le recrutement pour un projet de voyage.
Ah.
On va amener les jeunes en France pendant une semaine.
Oh, wow! Ils vont aller se balader ou ils vont...
On a un itinéraire déjà préétabli.
Bon.
On veut aller sur la route de Louis Braille. Fait qu'on connaître un peu plus sur le fondateur du Braille.
Ah, c'est bien! Elle est où, cette route-là? Vous savez pas.
C'est pas comme une route prédéfinie. C'est nous qui avons amené des activités en lien avec.
Oui, oui, c'est ça exactement. Où est-ce qu'il a vécu, tout ça, j'imagine.
La visite du musée Louis Braille, le Panthéon. Donc, on amène un voyage culturel.
Ah, ben c'est très, très chouette. Vous les financez comment, ces services-là, Madame Langlade?
Par les dons du public.
Ah bon, alors allons-y, il faut le dire. Si vous avez besoin de sous, allez.
Oui, on peut financer en allant directement sur notre site Internet au www.fondationdesaveugles.org.
Mm-hmm.
Il y a un petit onglet qu'on peut faire un don directement.
D'accord.
Ou sur notre Facebook. Puis, c'est que par les dons du public que la Fondation peut offrir les activités.
Eh bien, bravo à tous ceux qui donnent. Dites donc, j'ai lu que vous aviez eu, entre autres, deux dons généreux, en fait. Est-ce que c'est possible, qui vous ont permis cet été de monter des camps? Est-ce que c'est possible? Oui. Le fonds de la police militaire pour les enfants aveugles, c'est bien ça?
Oui. Et Opération Saint-Soleil, mais Opération Saint-Soleil nous donne pour chaque projet que nous avons.
D'accord.
L'année dernière, ils nous ont donné pour du matériel pour offrir les camps.
D'accord. Eh bien, c'est super.
Mais oui.
C'est super, mais vous avez toujours besoin. Alors, rendez-vous sur le site de la Fondation des aveugles du Québec.org.
Oui, effectivement.
Merci, Madame Langlade. On va se reparler d'ici quelques semaines pour savoir un petit peu quels sont les sujets chauds de la fac.
Parfait.
D'accord, bonne journée.
Merci,
au revoir.
Bonne journée à vous, au revoir.
Et les Canadiens continuent de se prononcer au sujet d'un Canada accessible. Il y a eu des séances publiques tout récemment à Charlottetown et à Halifax. Au cours des deux dernières semaines, le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques aussi à Vancouver et à Ottawa dans le cadre du processus de consultation visant à orienter la loi prévue sur l'accessibilité. La ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Carla Caltro, dirige des consultations sur les obstacles à l'accessibilité auxquels sont confrontés les Canadiens dans leur vie quotidienne. Et elle discute avec eux de ce que le gouvernement du Canada peut faire pour aborder ces questions. Alors, après Charlottetown et Halifax, la prochaine séance de consultation aura lieu le 8 février à Toronto. Les Canadiens peuvent s'inscrire à l'avance, simplement à accessible-canada. De toute façon, si vous faites Accessibilité Canada, vous allez forcément être... guider, diriger, pour savoir où seront situées les consultations et comment vous pourrez faire pour y participer. Tous les Canadiens sont encouragés à participer à la consultation en assistant à une séance près de chez eux ou en répondant à un questionnaire en ligne. Et vous pourrez trouver tout cela si vous faites Canada accessible. Vous trouvez cela. Une citation. Elle est de l'honorable Carla Caltro, ministre des Sports et des Personnes handicapées, qui a déclaré « Je suis ravie d'entendre directement des Canadiens me donner leur vision pour un Canada accessible ». Le gouvernement du Canada déploie d'importants efforts pour veiller à ce que tous les Canadiens bénéficient de chances égales dans leur collectivité et leur milieu de travail, et il est énergisant d'entendre les suggestions des Canadiens sur la manière dont nous pouvons y arriver. Il s'agit d'une occasion incroyable qui aura une incidence historique sur des millions de Canadiens handicapés. J'encourage tous les Canadiens à participer à cette consultation. Par actualité internationale maintenant, on se dirige en Ukraine. Un matin de janvier 2015, la vie de Lulia Mikhailova a basculé alors qu'elle se rendait à son travail à Donetsk, le fief des rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Elle a été touchée par des éclats d'obus. Elle a perdu une jambe et une main. Cette jeune fille blonde s'estime pourtant très chanceuse d'avoir survécu alors que 15 autres personnes ont été tuées ce jour-là. Elle vit aujourd'hui avec des prothèses, un fauteuil roulant et l'aide de ses amis. Elle dit « Le jour du drame, j'ai vu mes membres coupés, tout mon corps me faisait mal, j'ai perdu beaucoup de sang, j'ai eu de la chance qu'en réanimation, il y ait eu des médicaments grâce à l'aide humanitaire », raconte Lulia, 25 ans, qui a déjà subi 13 opérations. La jeune femme n'a obtenu une prothèse pour sa jambe qu'un an après le drame, via le centre de prothèses de Donetsk. En 2015, seulement près d'une soixantaine de personnes, dont Lulia, ont pu obtenir des prothèses gratuites. Les entreprises, les fabricants en République populaire autoproclamée de Donetsk, la DNR, sont dépendantes de matériaux livrés depuis la Russie. Et beaucoup ont dû arrêter leur production lorsque les combats avec l'armée ukrainienne étaient trop intenses. De plus, ces entreprises ne peuvent fabriquer que des prothèses ordinaires. Avec elles, tu apprends à marcher. Mais ensuite, il te faut une meilleure prothèse, une qui soit plus fonctionnelle, explique Lulia. Mais le gouvernement ne peut pas te la donner, déplore la jeune femme, précisant que de tels modèles coûtent très cher. Alors, les personnes handicapées doivent se les approprier eux-mêmes. Rappelons très rapidement que l'Ukraine est en proie depuis plus de 2 ans à un conflit opposant ses forces à des séparatistes pro-russes qui sont, selon Kiev et les Occidentaux, soutenus militairement par la Russie, ce que Moscou dément, bien évidemment. Il faut aussi savoir que Donetsk n'a jamais été une ville pour les handicapés. Donetsk a toujours été une ville pour les riches, les gens qui ont du succès, estime Lulia. Alors, face au prix des prothèses de bonne qualité, certains s'en remettent à des artisans qui leur fabriquent chez eux des modèles. Igor Rudenko, ingénieur de la formation, en fait partie. Il utilise pour cela des amortisseurs de vélo et d'autres matériaux disponibles dans son atelier. J'essaie de réduire le prix de fabrication d'une prothèse en utilisant les matériaux qu'on a sous la main, explique-t-il. Alors voilà pour l'Ukraine. Un voyage au Nicaragua pour l'AMDI. Fondée en 1935, l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle offre à ses membres des services et des activités très variées, certaines plus axées sur le développement des habiletés et de la participation sociale, d'autres plus récréatives et culturelles. Cette année, l'AMDI a déposé sa candidature pour le prix Innovation Guy Langlois avec un projet étonnant. Depuis quelques années, les voyages de type touristique sont de plus en plus accessibles, les voyages d'immersion culturelle étant les plus pertinents pour la clientèle desservie par l'AMDI, demeure toutefois bien souvent non accessible. Alors, afin de remédier à cette situation, 6 membres de l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle ont été jumelés à 6 stagiaires de 3e année du Cégep du Vieux-Montréal en technique d'éducation spécialisée pour vivre un voyage d'immersion culturelle au Nicaragua. Ils ont collaboré avec la communauté afin d'améliorer l'environnement de l'école primaire du village d'accueil. L'immersion a permis aux participants d'en apprendre plus sur le pays visité et de comparer l'accès et la disponibilité des services pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle. Programmation hiver 2017 au centre communautaire Berthe Réaume. Le 6 décembre dernier, lors d'un dîner de Noël apprécié par plus d'une trentaine de membres, le RAM lançait la programmation des activités. Les membres du RAM apprécieront le retour des classiques, tels que l'atelier de cuisine collective qui vous propose de concocter de savoureuses soupes pour vos papilles, tandis que le cours de Pilates se consacre à votre bien-être physique. Odessa, à l'animation des arts plastiques, vous prépare un atelier de confection d'instruments de musique recyclés. Une fois par mois, le thé de l'après-midi vous propose des échanges en toute convivialité. Le premier thème de la saison, quels sont les défis reliés à la saison hivernale et comment les surmonter, saura sûrement vous interpeller. Et puis, ne manquez pas le brunch conférence de février, feu sonore, la sécurité avant tout. Et au mois de mars, la conférence, les droits en tête. Nous vous invitons également à une soirée cinéma avec la présentation du documentaire « Aveugle de luxe » en compagnie de quelques participants du film. Et puis, quelques nouveautés vous sont également proposées, notamment du yoga sur chaise et une formation sur l'utilisation de Facebook. Et puis, c'est pas tout, mais pour en savoir plus, allez donc visiter le www.raamm.org. Voilà, c'était Clotilde Seille au micro de Canal M. Merci à mon équipe, Martin Forgue et Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'être là. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous retrouve demain matin dès 11h30.